Chaque samedi à midi, du citoyen au politique, 30 minutes pour sonder l'époque, au gré des récits de notre temps.
Si on avance à ce rythme-là, une église supplémentaire tous les 10 jours, on n'arrivera jamais à offrir comme on voudrait une église pour 10 000 habitants à l'ensemble de la population française. Donc nous, on voudrait doubler ou tripler le rythme si cela était possible. Parce qu'on parle bien d'un élan spirituel. Nous, on veut être présents partout.
Par exemple, en Espagne, il y a une nouvelle église actuellement qui s'ouvre tous les 3 jours. Ça nous fait rêver en France, voilà.
Ouvrir des églises encore et encore, accélérer la cadence pour permettre à de plus en plus de Français d'aller à la rencontre de Dieu. Nous sommes un dimanche de culte à Mulhouse, dans le Brouhaha, de la plus grande église évangélique de France. 7000 mètres carrés qui permettent d'accueillir plus de 3000 personnes. Au micro de France 24, Daniel Liechti, président de la commission d'implantation du Conseil national des évangéliques de France, démontre à quel point l'essor de ces pratiques est exponentiel. En 1950, l'Hexagone comptait 50 000 protestants évangéliques. Aujourd'hui, il serait près d'un million. Et ces églises ouvrent partout, des grandes villes aux banlieues, du périurbain aux zones rurales. Certaines méga-churches à l'américaine sont à la fois sanctuaires, salles d'enseignement biblique, espaces culturels, restaurants, crèches ou librairies. En somme, bien plus qu'un lieu de culte, un espace de solidarité et d'entraide, communautaire et joyeux. Comment expliquer cet élan, notamment les conversions des musulmans cibles des efforts du prosélytisme évangélique? Quelle place ont les prédicateurs du web pour les plus jeunes qui se retrouvent aussi dans les concerts et festivals de rap chrétien, eux aussi en pleine expansion? Dans une France qui pourtant se sécularise, faut-il y voir un simple retour du religieux? Bonjour Sébastien Fath.
Bonjour Nora Amadi, merci de m'avoir invité.
Je vous en prie, on est ravis. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, spécialiste des protestants évangéliques. Vous avez co-dirigé avec Jean-Paul Willem la Nouvelle France protestante, essor et recomposition au XXIe siècle. C'est paru en 2017 chez Labor et Fides. Et dans un livre à paraître le 16 mai prochain, co-dirigé par Marie-Annie, qui s'appelle Les religions des Parisiens, vous signez Minorité protestante à Paris, du stigmate à la reconnaissance. Alors, dans le débat public, Sébastien Fath, on parle beaucoup du dynamisme de l'islam, mais finalement, comme on vient de l'entendre, le christianisme évangélique, c'est aussi une religion qui monte.
Alors en fait, il n'y a pas de tsunami évangélique. Quand on regarde certains titres ces dernières années consacrés à ces protestants de conversion, on a l'impression d'une sorte de raz-de-marée, on en est quand même loin.
D'accord.
C'est à peu près aujourd'hui 1,6% de la population française, donc c'est quand même pas un raz-de-marée. En fait, ce qui se passe, c'est un mouvement contradictoire en apparence. C'est que d'un côté, il y a poursuite de la sécularisation de la société française, et de l'autre, il y a recomposition du champ religieux, comme l'ont très bien expliqué mes collègues Philippe Portier et Jean-Paul Viem dans un ouvrage précisément consacré à la sécularisation et à la recomposition. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain type de rapport religieux qui se meurt aujourd'hui, hein, très clairement. Il y a un modèle qui est en train de s'éteindre, c'est celui de l'observante traditionnelle, hein, qui va dans son lieu de culte parce que ses parents le faisaient et parce que c'est l'habitude de la famille, de la communauté. Ce modèle-là est petit à petit en train de disparaître, et notamment sous l'effet de la démocratisation de la société, sa pluralisation, et également la société de consommation, hein, qui propose aux individus aujourd'hui des choix de plus en plus diversifiés. En revanche, le modèle qui se recompose et qui, lui, attire aujourd'hui sur le plan religieux, c'est un modèle basé sur le choix. Hein, basé sur une dynamique plutôt contractuelle, hein, la dynamique de la fraternité élective. C'est-à-dire qu'on ne rejoint pas un groupe religieux tout simplement parce que ses parents en faisaient partie, hein, par habitude, par coutume, mais on le rejoint parce qu'on en a envie, hein, parce que ça a l'air cool, ça a l'air bien, hein, l'offre a l'air intéressante. Et du coup, on rejoint cette communauté de manière contractuelle, c'est une dynamique du choix, de la conversion. Et ce modèle-là, effectivement, il est en croissance, et les évangéliques, à bien des égards, sont un petit peu le fer de lance, si vous voulez, hein, de cette recomposition sur la base des fraternités électives.
Et quand vous parlez justement de ces fraternités électives, ça veut dire que pour beaucoup, ce choix se fait par conversion ou dans des logiques qu'on appelle de born again, des gens qui renaissent à une forme de pratique ?
Oui, effectivement. Effectivement, on est là dans un christianisme de conversion. C'est peut-être l'occasion de rappeler très rapidement les critères qui permettent de parler des évangéliques. Alors d'abord, c'est des chrétiens, donc ils se réfèrent à Jésus-Christ, avec un accent très fort sur le salut, une forme de dramatisation aussi. Hein. Si on ne croit pas en Jésus, eh bien on n'ira pas au paradis. Donc du coup, ça crée une dynamique aussi de prosélyte. Hein. Donc ça, c'est le premier point, c'est des chrétiens. Deuxième point, c'est des protestants, ils sont issus du protestantisme, donc la Bible est absolument centrale, hein. C'est pas du tout l'institution qui régule tout ça, ce qui fait que d'ailleurs il y a une myriade d'étiquettes, hein. C'est un peu compliqué, il faut bien l'avouer, quand on étudie ces milieux-là, il y a beaucoup d'étiquettes différentes, parce qu'il n'y a pas d'institution centrale hein, qui les fédère, donc ça c'est le deuxième point. Et puis troisième point, effectivement, et s'il fallait en retenir qu'un, c'est celui-là, c'est la conversion. Hein. On ne naît pas évangélique, même si bien sûr il y a des phénomènes, on le devient, voilà. Il y a évidemment quand même des phénomènes de reproduction qu'on observe. Mais d'après une enquête Ipsos parue en 2017, 38% des évangéliques interrogés ne venaient pas de milieux évangéliques. Donc venaient d'autres horizons. Donc il y a effectivement cette dynamique de conversion qui est très importante et qui mord, je dirais aussi, sur d'autres catégories de la population. Donc on n'est pas dans l'autoreproduction, y compris par conversion interne. Mais on gagne des parts de marché, hein, si je puis dire. Et puis le dernier point, le quatrième point qui définit aussi les protestants évangéliques, c'est le militantisme. On est dans des églises effectivement de militants, on dit parfois aussi des églises de professants, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout là dans l'observance traditionnelle. Les fidèles qui rejoignent ces églises sont des gens convaincus et qui s'engagent d'ailleurs assez volontiers hein, dans des démarches prosélytes. Hein. Il s'agit vraiment de témoigner de l'évangile, hein, comme ils disent, comme elles disent et comme ils disent, et d'amener de nouveaux contemporains à la conversion.
Vous évoquiez à l'instant les catégories de gens qui rejoignent ces églises. Est-ce qu'il y a un profil type ? On sait que, par exemple, il y a une cible dans ce prosélytisme que sont les musulmans, donc des gens qui croient déjà et qui pourraient rejoindre en fait ces pratiques. Est-ce que pour autant, véritablement, il s'agit d'une population ciblée ? Et est-ce qu'on peut faire un profil type aujourd'hui ?
Alors, je vous rassure, il n'y a pas de choc des civilisations. Il y a effectivement un match, hein, il y a un match entre prosélytisme musulman et prosélytisme évangélique. Aujourd'hui, en France, en Europe, c'est les deux religions hein, qui gagnent aujourd'hui des fidèles, hein, qui se développent pour des raisons en partie similaires et des raisons en partie différentes aussi. Mais cela dit, les musulmans ne sont pas particulièrement ciblés. Hein. Et d'après les données Ipsos, encore une fois, bon, qui datent un petit peu, qui datent de 2017, mais qui sont les données les plus fiables dont on dispose. Donc, parmi les 38% d'évangéliques qui ne viennent pas des milieux évangéliques, 62% viennent de la religion catholique, hein, donc parmi ces nouveaux évangéliques, 62% viennent du catholicisme, 2% du judaïsme, 2% de l'islam, donc c'est quand même pas énorme, et quand même 27% de sans religion. Et ça, c'est intéressant, 27% sans religion, ça signifie qu'on n'est peut-être pas juste dans une recomposition, on va dire, qui gère les dernières personnes qui croient, mais on est quand même là dans une offre religieuse aussi qui est éventuellement capable d'atteindre des gens qui ne croient plus. Voilà.
Des gens qui ne croient plus ou des gens qui sont complètement athées, enfin, comment vous... Qu'est-ce qu'il y a dans cette catégorie de gens qui ne croient plus ?
Alors, il y a toutes sortes de choses. Hein. D'après les données d'enquête dont on dispose, d'enquêtes qualitatives, hein, qui nous viennent notamment d'anthropologues hein, qui ont interrogé des convertis, il y a toutes sortes d'éléments. Alors d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans les églises évangéliques, on retrouve, entre guillemets, hein, la famille que je n'avais plus. Hein, dans une société marquée quand même de plein fouet par l'impact du néolibéralisme. Hein, il suffit aujourd'hui, quand on s'adresse à n'importe quel organisme, institution, on tombe sur des plateformes, on tape des numéros 08, on a l'impression d'une forme de déshumanisation croissante, hein, d'une distance croissante entre les individus, c'est les fameuses particules élémentaires décrites par le romancier Michel Houellebecq. Dans ce contexte-là, en fait, les églises évangéliques, c'est des fraternités électives où on mange ensemble, on s'embrasse, comme du bon pain, on se rend visite. On va aussi parler de ces problèmes. On en parle sans tabou lors de la réunion dominicale, mais aussi éventuellement en semaine. Donc on trouve des formes de commensalité, d'encouragement, des formes de solidarité qu'on ne trouve plus forcément ailleurs aujourd'hui. Hein. Le nombre des buts de boissons, des cafés, des bars en France s'est effondré entre le début du XXe siècle et aujourd'hui. Les lieux de sociabilité sont de moins en moins nombreux. Et dans ce contexte-là, l'église évangélique, en fait, voilà, c'est un lieu où on va se faire des amis, on va être entouré, on va pouvoir vivre des relations relations sociales, finalement, qu'on ne vit pas forcément facilement ailleurs. Donc ça, c'est un des éléments. Alors après, il n'y a pas que ça. Alors il y a aussi, je dirais, le rapport aux normes et aux valeurs.
Mais si vous permettez, Sébastien Fatt, je vais vous arrêter parce qu'on va justement aller découvrir ce qu'attendent les pratiquants. Et dans le quartier de la Bastille à Paris, l'église Paris Métropole peut accueillir 1200 personnes par dimanche. Visite guidée avec le pasteur et les fidèles par Clara Menet.
Seigneur, que tu nous donnes des mots, que tu nous donnes des passages bibliques, que tu nous donnes, Seigneur, d'être présent et attentif à ceux qui souffrent. Encore, Seigneur, ce que tu veux, c'est une église forte, et cette église se fera au travers de nous. Alors fortifie chacun d'entre nous. Prenez place, mes frères et sœurs. Le temps des annonces s'offre à nous, et nous souhaitons la bienvenue à tous les gens qui nous visitent pour la ou les premières fois. Si vous le voulez bien, levez la main. Nous souhaitons vous accueillir. Oui, nous avons une personne ici devant. N'hésitez pas à garder la main levée.
Donc je m'appelle Christian Rambichaud, je suis le pasteur principal de l'église Paris Métropole. Donc en fait, on s'est développé sur trois campus. Nous sommes ici, sur la rue de la Roquette, à Montparnasse aussi, à l'hôtel Concorde Montparnasse. On se réunit là-bas, c'est notre deuxième campus. Et nous avons un troisième campus qu'on appelle Paris-Est, qui est sur Long aujourd'hui. Donc en tout et partout, on estime à peu près entre 1200 et 1300 personnes par dimanche. Régulièrement, les journalistes parlent des évangéliques. Mais historiquement, on voit qu'en France, le christianisme évangélique s'est toujours développé. L'homme est en quête de spiritualité. Les Français sont en quête de spiritualité. Il y a un grand besoin aussi. L'Église, ce n'est pas que le culte. C'est aussi une communion fraternelle, du temps qui est passé ensemble. Donc, on a des petits groupes qui se rencontrent parfois dans les maisons. Il y a des activités, il y a des activités sportives, on a un groupe de jeunes. Les gens ont besoin de se retrouver aussi ensemble.
Et donc, aura lieu le samedi 23 mars, ici même à 10h, un repas pour les aînés. Et donc, si tu as entre 60 ans et plus, eh bien, sache que tu as l'opportunité de venir ici. Nous aurons des moments d'échange.
Alors moi, c'est Véronique Alcindor, donc je suis responsable du Métropole Café. Je vous emmène donc au local où on prend le temps d'accueillir les nouvelles personnes et ça leur permet de vous mettre un visage sur cette église qui est quand même assez grande. Et quand vous ne connaissez personne, vous débarquez comme ça. On est une grande ville, Paris, ça peut être un petit peu un peu difficile de s'intégrer. Donc là, on essaye de les aider, de parler, d'être à l'écoute. On ne vend rien, on ne donne rien, si ce n'est ce petit café. Nous voilà arrivés à notre local.
Bon dimanche.
Ah ouais, c'est ça.
Bon dimanche. Je suis à Paris depuis août 2023.
Moïcha, étudiante en LEA.
Je viens souvent, enfin je viens tous les dimanches aux événements et quelquefois aux événements du vendredi aussi pour les jeunes. Ça fait du bien de pouvoir faire des activités et que ce soit bien sûr centré sur Dieu, mais par exemple des pique-niques et tout ça, je trouve ça vraiment trop bien. Donc voilà.
Moi, je viens d'une famille orthodoxe, mais plus de culturellement parlant.
Natalia.
Mais voilà, ça s'est arrêté à là. Et puis, la vie m'a emmenée à me poser des questions par rapport à l'existence d'un Dieu, s'il existe ou pas. Je partais vraiment de zéro. Et donc, par Internet et par ma curiosité, YouTube, etc., j'ai commencé à chercher. Et petit à petit, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une église évangélique. Parce que c'est vrai qu'on est très centré sur... la vie avec Jésus, en fait, c'est la relation avec Jésus plus que faire ci ou ne pas faire ça. C'est avant tout, le centre, c'est de ressentir son amour et voilà, vivre cette relation avec lui et avec les autres aussi, parce que c'est sa création.
Sébastien Fatt, on entend à quel point le besoin de communauté, de refaire du lien, de recréer du lien dans des sociétés atomisées conduit en fait à avoir des églises qui se sont investies dans ce champ. C'est ça qui fait sa force ?
Oui, alors d'abord, merci beaucoup pour ce reportage, parce qu'effectivement, là, on a beaucoup d'éléments de réponse hein, qui nous viennent de ces convertis qui s'expriment. Il y a ce besoin de lien, et on vient d'en parler. Et il y a aussi le besoin complètement articulé de spiritualité. Et c'est l'occasion de rappeler aussi que évangélique, ça vient du mot évangile, qui dit bonne nouvelle. Et aujourd'hui, on a le sentiment, dans les sociétés occidentales sécularisées, qu'il y a une forme de panne dans le rapport à l'avenir. On a l'impression que vivement hier, finalement, hein, et certains hommes politiques populistes surfent d'ailleurs sans vergogne hein, sur cette approche, cette instrumentalisation de la nostalgie. Or, les populations ont aussi besoin de se projeter vers l'avenir. Et ça, c'est le rôle de la religion, hein, en principe, de toute forme de religion. Et alors, comme les évangéliques sont particulièrement convaincus et centrés sur le nucléus du message chrétien, c'est-à-dire la bonne nouvelle hein, d'un Dieu qui s'incarne, qui sauve, qui pardonne, hein, Jésus-Christ, tout ça fait du bien aussi aux fidèles. Mais ils ont ensuite besoin de validation expérimentale. Et c'est là qu'effectivement, la solidarité est absolument fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans l'âge de l'authenticité, pour paraphraser Charles Taylor. Et donc, si la parole dite n'est pas vérifiée expérimentalement, on n'y croit pas. Hein. Il faut que ça puisse se vivre, que ça puisse se palper, que ça puisse s'expérimenter. Et les églises évangéliques, dans un certain nombre de cas, pas toujours, mais dans un certain nombre de cas, effectivement, proposent aussi une forme d'expérience hein, de ce monde nouveau qu'on cherche à présentifier, qui est celui des frères et sœurs en Jésus-Christ. Hein.
On entend hein, que ce besoin de communauté, de lien, s'inscrit aussi, alors on l'a vu beaucoup dans les grandes villes, on le dit beaucoup des quartiers populaires et des banlieues, de grandes métropoles, mais de manière très inédite, on le voit aussi en zone rurale. Qu'est-ce que ça dit, et vous le disiez tout à l'heure, dans une certaine mesure, ces cafés qu'on a fermés, ces services publics qui n'existent plus, on sait que... Au sein de l'Église évangélique, il y a des logiques, en fait, de marché où on va chercher les besoins d'un territoire, les besoins de la communauté, et on va tâcher de les remplir. Derrière, c'est quoi? C'est juste de créer une forme de fraternité où on est aussi dans des logiques prosélytes?
Alors, on est naturellement dans des logiques prosélytes. Là, nous sommes face à une religion qui cherche à convertir ses contemporains, qui cherche à élargir, entre guillemets, le royaume de Dieu. C'est comme ça que s'expriment les convertis, c'est-à-dire un peuple nouveau, finalement, qui propose à des sociétés en panne d'avenir une forme d'alternative. C'est dans cette perspective-là que ces églises se positionnent. Donc, naturellement, on n'est pas simplement là pour proposer une alternative au service public. Au travers des églises providence, qui supplée aux déficiences de l'État-providence, ben, il y a aussi derrière, effectivement, un projet de société, un projet prosélyte, mais qui n'est pas forcément théocratique pour autant. Et ça, je crois que c'est peut-être important de rappeler que là, nous parlons de la France, nous parlons de l'Europe, et que l'évangélisme est en fait très divers dans son rapport aux politiques. C'est nécessaire de le rappeler. Globalement, il y a deux grandes tendances, on va dire. Il y a une tendance puritaine, et une tendance héritée de l'anabaptisme. Outre-Atlantique, c'est la tendance puritaine qui l'a emportée. Là, je schématise, mais en gros, c'est cette tendance-là, c'est-à-dire qu'il voulait purifier l'Église anglicane, mais qui était une Église d'État, qui mêlait la couronne et l'Église. Et là, la tentation théocratique est beaucoup plus nette, et on l'observe chez un certain nombre d'acteurs évangéliques aux États-Unis aujourd'hui. Vous avez une vraie volonté de prendre le pouvoir, de mettre en place des lois chrétiennes, etc. Ça, c'est la tendance puritaine, donc qui s'est imposée pour des raisons historiques que je n'ai pas le temps de développer, outre-Atlantique et particulièrement aux États-Unis. Alors, en revanche, en Europe, c'est la tendance anabaptiste, mennonite, qui a dominé. Donc là, c'est une branche de la réforme au XVIe siècle qui met l'accent sur les communautés locales, sur une sorte d'anarchisme chrétien, si on veut, via des communautés qui se gèrent, qui développent aussi des ressources agricoles, et qui sont dans une perspective prophétique, mais qui n'a pas du tout l'intention de prendre le pouvoir par le haut. Ouais. Là, on est vraiment dans des communautés de base, si je puis dire, et on est là dans une logique, si on veut, de société civile, d'offre à l'intérieur d'une société civile pluraliste. C'est Dieu dans la cité, et pas la cité de Dieu.
France Culture, sous les radars, Nora Hammadi.
Le Jeans Boys, partie 3. Jésus, wow, Jésus, Jésus, wow, Jésus, Jésus, wow, Jésus, Jésus, wow, Jésus. C'est lui le plus fort de la terre, le créateur de l'univers. C'est Jésus-Christ notre repère, pour nous sauver et ses fiers. Jésus, je suis atterré par l'éternel. Je suis comme un super Saiyan. Je suis comme un malade, j'aime monsieur Ardel. Quand je rappe les démons, on la migraine. Pour Jésus, faut augmenter les levels. Pour Jésus, faut augmenter les levels. Je me confie sur la Bible. Faut marquer l'histoire comme le Michael.
Marquer l'histoire comme Michael. On va marquer l'histoire comme Michael Banks. La Bible nous aide à glow up. Et maintenant on n'a plus des microbes. Ouais mon gars on est fait. Ouais nous sommes en guerre contre le peuple de Lucifer. Il n'y a que le Christ qui donne la paix. Donc je m'en jaille de mon Banks. Pouvoir surhumain, pouvoir surhumain. Être divin, il a transformé l'eau en vin. Multiplié plusieurs pains. Attends 2000 ans encore un jour il montrait tout.
Voilà, vous écoutez le freestyle Jésus 3 de Ludwig Boyz. Alors, Sébastien Fatt, on découvre l'espace du rap chrétien quand on va sur les plateformes, notamment YouTube, la puissance aussi des festivals qui, à chaque fois, peuvent drainer des milliers de jeunes. Ça, c'est un moyen aussi d'aller chercher des jeunes gens. Comment vous expliquez la force de ces... Enfin, pourquoi le rap ? Peut-être. Pourquoi le rap, pourquoi le R&B ? Est-ce que c'est au même titre que ce qu'on a pu avoir avec le gospel il y a des décennies ?
Alors à certains égards, oui. En effet, la musique a toujours été un vecteur hein, pour exprimer un certain nombre de revendications finalement. Hein. Et le gospel en son temps et aujourd'hui le rap, je dirais le rap chrétien, à bien des égards, est une forme de prophétisme contemporain qu'on pourrait comparer au camisard, finalement, au prophète camisard des Cévennes, une forme de véhémence, comme cela, qui fait passer aussi, alors bien sûr, de l'espérance, mais aussi de la colère. Mmh. Et la colère de toute une jeunesse qui a le sentiment peut-être de ne pas être écoutée, de ne pas avoir sa place, d'être sacrifiée dans un pays où finalement le pouvoir est largement occupé par les plus de 60 ans. Donc on va pas simplement chercher les jeunes, on exprime aussi au travers de cette musique un certain nombre de thématiques finalement qui sont portées par la jeunesse et c'est pour ça que ça marche.
Mmh. Et il y a un autre espace qui est aussi particulièrement investi, ce sont les réseaux sociaux. Et justement, on va écouter quelques prédicateurs, quelques influenceurs. Florilège par June Loper.
Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous parler de mes 5 youtubeuses chrétiens préférées sur YouTube.
Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série qui s'appelle Presence, où je vais essayer de vous expliquer la foi chrétienne.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que vous vous portez bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo.
Une personne chrétienne, qu'est-ce que c'est ?
Au moment là, j'étais musulman, je lui ai dit merci, bonne soirée. Ça m'intéressait vraiment pas et elle m'a juste dit « Prie sincèrement, demande à Dieu sincèrement et il se révélera à toi. »
On a prié ensemble, on a prié séparément.
Le plus grand combat qui est dans votre vie actuellement, c'est pas les démons qui vous oppressent. C'est pas votre santé. C'est pas votre bébé qui vous réveille la nuit. C'est pas votre conjoint. C'est de réussir à passer du temps avec Dieu.
Si Jésus est Dieu et que le Père est aussi Dieu, pourquoi Jésus priait-il le Père ?
Soyez bénis. Et sachez qu'on vous aime énormément.
Parce que l'avortement, l'euthanasie, c'est généralement, souvent, des gens qui souffrent et qui sont malheureux.
Et déjà, depuis mon plus jeune âge, le diable me titillait avec ça. Mmh. J'ai besoin d'amour féminin. J'ai plus besoin d'amour féminin que masculin.
Que masculin, ouais.
J'ai rencontré une fille et j'ai eu des papillons dans le ventre. Donc c'est là que je me suis dit, je suis lesbienne.
Le pape qui autorise la bénédiction des couples homosexuels, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Eh bien que ce nouveau document du Vatican, à un moment donné, il faut le dire, est un problème.
Vive le respect des croyances et bien évidemment, vive la France.
Sébastien Fatt, il faut comprendre aussi qu'on est face à des pasteurs, y compris femmes, qu'on entend sur les réseaux, qui sont en jean, en veste en cuir, en basket, avec des créoles. Il y a une image très très cool, très horizontale, pas très normée, et j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, mais par ailleurs, des valeurs qui peuvent être extrêmement conservatrice.
Oui, absolument. Les évangéliques sur les questions de la famille, de la sexualité, de la bioéthique, globalement, je dirais, sont sur des lignes très, très proches de celles du magistère catholique. Hein, donc des lignes, effectivement, conservatrices, absolument. Et ces personnes qu'on vient d'écouter sur les réseaux sociaux ne s'en cachent pas. Alors, ce qui est peut-être nouveau ces dernières années, c'est précisément qu'on a accès aujourd'hui beaucoup plus facilement à ces énoncés qui précédemment restaient souvent l'apanage des lieux de culte, hein, finalement, des lieux de socialisation où on est physiquement présent. Aujourd'hui, grâce à la révolution des réseaux sociaux, d'Internet, on a accès vraiment à tous ces contenus.
Et donc, certains cultes aussi sont diffusés en direct.
Absolument. C'est l'occasion peut-être aussi de rappeler que la technologie a aussi un rôle dans les recompositions religieuses. Si la révolution Gutenberg a accouché du protestantisme classique luthérien réformé, hein, l'imprimerie au XVIe siècle, sans quoi il n'y aurait pas eu de réforme protestante, à bien des égards, la révolution révolution Zuckerberg aujourd'hui, hein, d'Internet, des réseaux sociaux, nourrit très fortement les dynamiques évangéliques parce que c'est des dynamiques bottom-up, hein, qui partent vraiment des fidèles, des individus. Et la forme des réseaux sociaux, en cela, est extrêmement attractive. Hein. Il y a vraiment des affinités électives entre cette technologie aujourd'hui, des réseaux sociaux, et la manière dont les évangéliques communiquent et font du prosélytisme.
Oui, et on le voit aussi parce qu'ils commencent à s'interroger sur l'usage qu'ils vont pouvoir faire de l'intelligence artificielle pour continuer l'entreprise prosélyte. Donc ils s'emparent de toutes ces révolutions.
Absolument. Dans la mesure où les évangéliques, en fait, sont constitués de petites associations en général, hein, c'est des petites églises, il y a une multitude de petites structures. Quand l'autoroute est rectiligne, eh bien ces petits véhicules-là n'avancent pas forcément très vite. Hein, et le grand bus institutionnel, par exemple, de l'Église catholique, ira plus vite. En revanche, quand on est dans une période de grand changement social, comme nous le vivons aujourd'hui, eh bien les petits véhicules évangéliques, en fait, s'adaptent beaucoup plus facilement au virage, adoptent beaucoup plus facilement les nouveautés technologiques, et c'est très très clair avec l'intelligence artificielle, en effet.
Oui, et vous le disiez tout à l'heure, la dimension hyper-normée de notre société conduit aussi à avoir une forme d'inclination à aller plutôt vers les églises évangéliques qui n'ont pas la même image que le culte catholique classique.
Alors, ces églises évangéliques sont dans des régimes de certitude, effectivement, mais aussi des formes d'accueil très large. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a pas forcément tout bon, je dirais, sur le plan de l'orthodoxie ou de l'orthopraxie, qu'on n'est pas accueilli. Et donc c'est cette combinaison finalement qui fait que effectivement beaucoup de gens se tournent vers ces églises parce qu'il y a quand même au-delà du côté parfois un peu sectaire, hein, qu'on peut trouver dans certaines églises évangéliques, il y a cet accent sur des repères, sur des cadres normatifs. Et ça me fait penser à cette citation que j'évoque parfois, hein, de Marcel Gauchet, qui disait: on vit aujourd'hui dans une société psychiquement épuisante pour les individus parce qu'on est bombardé de normes différentes du matin au soir, avec la surmédiatisation, avec tous les
Des injonctions permanentes.
Mmh. Et donc les individus sont un petit peu déboussolés, sont un peu perdus et se demandent: mais finalement, à partir de quoi je vais construire ma vie? Et dans ces espaces qui combinent à la fois effectivement un régime de certitude, mais par ailleurs aussi un accueil très très large, très très chaleureux, eh bien beaucoup d'individus finalement se disent: bah là, pourquoi pas? Là, ça vaut peut-être la peine, je vais pouvoir construire quelque chose.
Ce qui signifie pour vous que parce que nous dérivons en incertitude dans un moment qui est un moment de transformation, de transition profonde, on est face à un retour du spirituel, à un retour du religieux dans une société qui pourtant se sécularise. Comment vous le lisez ?
Alors, pour revenir au propos liminaire, c'est vraiment une recomposition. C'est-à-dire que le religieux n'est en fait jamais vraiment parti, hein, le spirituel n'est jamais vraiment parti, mais il se recompose. Je crois qu'un élément peut-être qui joue aussi, c'est que depuis 20 ou 25 ans, nous vivons une forte désacralisation du politique en France. Beaucoup de nos concitoyennes et nos concitoyens sont extrêmement déçus par les discours messianiques tenus par les hommes politiques, et ont le sentiment qu'en fait ils ont été trahis et qu'en fin de compte ils sont là simplement pour gérer plus ou moins l'existant et servir l'intérêt de lobbies bien au-dessus de leur tête. Et donc il y a ce désenchantement, finalement la République ne fait plus tellement rêver, et du coup bah où placer le sacré, hein, où placer le spirituel dans les anciennes églises? Et ben pas forcément, parce que pour diverses raisons, voilà, il y a des soucis, et notamment aussi, on l'a pas évoqué, mais la question du genre et la question du rôle donné aux femmes. Aujourd'hui, nos contemporains n'ont plus tellement envie d'être face à une offre religieuse exclusivement masculine, par exemple. Et donc, où se tourner? Et finalement, c'est les acteurs religieux qui tiennent compte des demandes des contemporains aujourd'hui, eh bien, sont ceux qui gagnent aujourd'hui des parts de marché, et les évangéliques en sont peut-être le meilleur exemple aujourd'hui.
Merci beaucoup, Sébastien Fatt, de nous avoir éclairé sur cet essor. Merci à vous. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Merci à Antoine Dulster qui l'a préparé, à June Loper qui l'a réalisé, à la technique. C'était un combo d'Ali Yaha et Ludovic Auger. Merci à eux.